Donc Florence Salano, qui est conservatrice de bibliothèque à l'université de Nice, Sophia Antipolis. Elle dirige la bibliothèque Saint-Jean d'Angély. Elle est aussi responsable du service des publics, du service commun de la documentation. Et elle est par ailleurs doctorante en sciences de l'information et des bibliothèques. Elle s'intéresse particulièrement à la chercheuse associée de la BNF. Il y a quelques années, quand elle était élève conservatrice des bibliothèques, elle avait travaillé dans le cadre de son mémoire sur le sujet dont elle va nous entretenir aujourd'hui, c'est-à-dire les bibliothèques et le dialogue interculturel. Voilà, je lui laisse la parole.
Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à remercier très chaleureusement l'équipe de l'organisation de m'avoir invitée aujourd'hui à évoquer un sujet qui me tient particulièrement à cœur, déjà en 2010. Je suis également très reconnaissante aux intervenants qui m'ont précédée d'avoir dressé un panorama philosophique, sociologique, solide. Et donc, mon intervention ici ne sera qu'un complément. Et je pense pour vous, ce sera intéressant du coup d'analyser l'ensemble des interventions. Je sais également que je dois relever un défi immense. L'intervalle de temps qui vous sépare du repas constituant mon intervention. Donc, je vous promets, je serai brève. Donc, quand je pense à la diversité culturelle, j'en ai fait mon mémoire NCIB en tant qu'élève conservateur de bibliothèque. La chose paraissait à l'époque à l'NCIB très étonnante. On m'a dit OK, vas-y, mais bon. Depuis, les choses ont changé. Plusieurs mémoires d'élèves conservateurs ont été publiées. Donc il y a celui de Lola Mirabaille sur les primo-arrivants, celui également de Lucie Le Prévost-Granger sur le travail dans les communautés. Donc les choses ont évolué déjà dans le métier. C'est que le contexte aussi a changé. En 2017, elle me paraît cruciale, primordiale, essentielle. Au moment où je rédigeais mon mémoire, en 2010, il n'y avait pas encore ce que les journalistes appellent et appellent encore aujourd'hui la crise des réfugiés, et qui depuis n'a pas cessé. Il n'y a jamais eu autant de personnes réfugiées déplacées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ce phénomène ne fait que s'amplifier. Cette problématique, qui est un enjeu d'actualité et qui concerne le débat public, qui est sujet à polémique, dans les bibliothèques. Les bibliothèques en France sont de plus en plus confrontées aux questions interculturelles. Et elles y sont concernées parce qu'elles se présentent en tant que telles, en tant que promotrices de l'accès à la culture et à l'information pour tous, lieu d'intégration et de cohésion sociale, lieu d'apprentissage et d'exercice de la citoyenneté. Dans un contexte de migration qui prend une ampleur considérable, elles devraient être considérées comme des actrices à part entière dans la promotion de l'interculturalité. Cette affirmation, car on l'a vu à travers les intervenants, les interventions qui m'ont précédée, la notion d'interculturalité s'inscrit dans un champ politique, idéologique, particulièrement ambivalent. Et les interrogations qui préoccupent la société sont les suivantes. Peut-on, doit-on prendre en compte la complexité des sociétés contemporaines en France et dans le monde? Et cette question-là se pose dans les bibliothèques. Est-ce que reconnaître une diversité des cultures, ce n'est pas contradictoire avec l'esprit de l'universalisme républicain qui guide le service public? Et nous présenter ici souhaite apporter des éléments de réponse à cette question qui me semble fondamentale. Que doit-on répondre? Comment agir face à ce principe d'universalisme républicain en bibliothèque? Donc, ce que je vous propose de faire, c'est que j'ai analysé les textes des manifestes, tels que les bibliothécaires les ont définis, pour définir le rôle des bibliothèques. Et j'ai posé la question, est-ce que les missions plurielles, telles qu'elles sont définies dans tous ces textes, est-ce qu'elles intègrent implicitement, explicitement, l'interculturalité ? Texte de référence que vous devez certainement très bien connaître. Donc, dans un premier temps, nous avons la charte des bibliothèques, qui avait été rédigée en 1991-92 par le feu Conseil supérieur des bibliothèques. Et dans cette charte des bibliothèques, il y a de façon très très précise posé le lien entre bibliothèque et démocratie. Et notamment à l'article 4, il est noté... Les bibliothèques publiques sont ouvertes à tous. Aucun citoyen ne doit en être exclu du fait de sa situation personnelle. Donc là, on a une analyse très générale, très globale. Mettre le texte dans un logiciel d'analyse de mots pour voir combien de mots sont utilisés qui apparaissent le plus. Donc ce que vous voyez en plus gros, c'est ce qui apparaît en termes de quantité le plus dans le texte. Et ce que vous voyez en tout petit, c'est ce qui apparaît le moins. Donc ce qu'on voit, c'est qu'encore en 1991, bon, le mot bibliothèque apparaît, mais qui sont chapeautés des deux côtés par la vision documentaire, donc des collections et les publics. En 1994, le manifeste de l'IFLA et de l'UNESCO sur la bibliothèque publique permet de développer et notamment ce qu'on voit donc dans le nuage de mots qui est présenté ici, on voit que le terme de document disparaît avec la mise en avant de l'idée de service et de public. Ce qui est également intéressant, c'est que les verbes qui sont mis en avant sont les verbes être et devoir. Donc on est entre la définition et la nécessité d'être, doit. En 1994, par rapport à 1991, on devient un petit peu plus précis dans le manifeste tel que les bibliothécaires définissent la bibliothèque. Les services que la bibliothèque assure sont également accessibles à tous, sans distinction d'âge, de race, de sexe, de religion, de nation. Donc on précise l'accès donc, en notant les personnes qui ne sont pas exclues, de fait. En 2006, l'IFLA continue de prendre en compte les publics, et notamment la notion de diversité culturelle, puisque nous sommes dans un contexte de migration très importante. Et cela devient de plus en plus concret. Donc, comme vous voyez, des mots apparaissent. Diversité, service, c'était déjà multiculturel, communauté. Et concret d'action qui commence à poindre. Servir tous les membres de la communauté sans discrimination fondée sur le patrimoine culturel et linguistique. Fournir l'information dans les langues et les textes appropriés. Donner accès à un large éventail de documents et de services qui sont le reflet de toutes les communautés et de tous les besoins. Et enfin, embaucher du personnel qui est le reflet de la diversité de la communauté et qui est formé afin de travailler avec les communautés diverses et bien les servir. Tout à l'heure, une personne a dit « Nous sommes ici tous blancs ». Vous voyez à quel point donc, ce travail-là, qui date de 2006, n'est toujours pas pu en venir. C'est que tous ces textes qui sont des manifestes de définition du rôle de la bibliothèque ne sont que des textes. Et défendus par des professionnels convaincus, si ce sont des textes admis par tous, il n'en reste pas moins qu'il y a un écart. Comme le disait Anne, il y a un écart entre la théorie, l'égalité formelle, et la pratique. Donc c'est ce que j'ai mis en avant en mettant le grand écart. L'interculturalité a en France une difficulté. Il y a une invisibilisation. Et cette invisibilisation des différences se traduit par une difficulté, comme je vous le disais tout à l'heure, à prendre en compte ce champ dans le terrain des études. Je ne sais pas si vous connaissez le bulletin des bibliothèques de France, j'imagine que oui. Quand on fait une petite recherche sur le moteur de recherche, en cherchant interculturel, on a seulement que 25 occurrences qui apparaissent interculturelles depuis la création du BBF. Donc, c'est-à-dire depuis une structurelle, depuis une soixantaine d'années. C'est très peu. Cela signifie à quel point la problématique n'est pas abordée ou invisibilisée. En tout cas, pas étudiée. De façon, j'allais dire, académique, dans le BBF. Évidemment, alors je vous ai mis à côté un récent dossier de bibliothèque qui s'appelle Bibliothèque et inclusion en 2015, qui montre qu'il y a une évolution, évidemment, parce que je ne voudrais pas seulement dresser un tableau noir et critique seulement de notre rapport à l'interculturalité. Donc, dans ces engagés et de professionnels volontaires, on a l'exemple de la commission Légothèque. La commission Légothèque, c'est une commission de l'ABF qui travaille sur des thématiques liées au genre, à l'orientation sexuelle, mais également sur la diversité culturelle et à la meilleure prise en compte des diversités en bibliothèque et qui agit en ce sens. Donc la commission de Légothèque, là, j'ai pris l'image sur le site du blog de la commission Légothèque. Pourquoi Légothèque ? Parce qu'ils ont pris le Lego. Le Lego en termes de construction. Leur vision est que la bibliothèque participe à la construction de soi. Les professionnels bibliothèques doivent aider les usagers à se construire eux-mêmes en rapport avec les autres. Des professionnels qui agissent pour créer du vivre ensemble et prendre en compte davantage l'interculturalité. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des blocages par rapport à l'interculturalité. Pourquoi en bibliothèque, c'est vraiment difficile de le prendre en compte? On n'avait pas évoqué donc, depuis le début, peut-être avec Anne Morillon qui a évoqué la difficulté de la nation française à prendre en compte de façon historique l'immigration. Il y a quelque chose qui, alors j'ai fait un organigramme, il y a quelque chose qui est très important en France, c'est la nuance de l'universalisme républicain. On n'a pas encore fini de voir à quel point on est imprégné de cet universalisme républicain. Qu'est-ce que c'est l'universalisme républicain ? C'est la France, c'est l'article 1 de la Constitution de 1958 qui cite... Et je cite, pardon, « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. » Donc c'est une république une et indivisible, facile d'évoquer sereinement les questions de pluralité culturelle, de pluralité religieuse, de pluralité ethnique, sociale ou culturelle, ou de genre. En témoignent tous les débats que nous avons sur les statistiques ethniques. Ce débat que nous avons sur les statistiques ethniques, il n'y a pas d'hermétisme avec ce qui se passe en bibliothèque. Si le débat que nous avons dans la société existe, il existe par corrélation, par ricochet, en bibliothèque. Donc, le modèle républicain, donc, tel qu'on le définit depuis les années 60, donc, constitue un obstacle pour penser la spécificité des actions que l'on pourrait mener en public. Donc, les migrants, par exemple, qui ne sont pas un public homogène, comme on a dit tout à l'heure, un public très très complexe, qui sont des étudiants, qui sont des personnes, des Roms, qui vont chercher à mettre des prises, à chercher des prises pour charger leur portable, aller aux toilettes, etc. C'est des choses très, très complexes. La catégorie de migrants, elle est une catégorie que l'on a quelque peu inventée. Donc ce paramètre fondamental de l'universalisme républicain crée des tensions. Des tensions qui sont des tensions idéologiques. Et des tensions donc, que l'on retrouve sur trois niveaux, des crispations entre les professionnels et les décideurs politiques, des tendances culturelles. Est-ce que la bibliothèque doit accueillir tous les publics? Est-ce qu'elle doit accueillir un certain public? Là, il y a des tensions, et tensions entre les professionnels et les usagers eux-mêmes. Tout cela est dû donc, à la prégnance de l'universalisme républicain et également au statut du fonctionnaire ou agent public, dont le statut général des fonctionnaires valorise et l'injonction de neutralité. L'injonction de neutralité à travers l'obligation de réserve. Donc vous voyez où je veux en venir par rapport à cette question de la neutralité. Tout à l'heure, Monsieur Marchand disait qu'il y a tout un débat que nous devons avoir sur ce qu'est la neutralité, et notamment quand on travaille sur les questions liées aux migrations, liées à toutes les catégories qui ne sont pas représentées ou invisibilisées du fait de l'universalisme républicain. C'est une question dont il faut diagnostiquer absolument la nature, les teneurs, enfin, les tenants et les aboutissants, pour justement mettre en place des actions précises et lever les obstacles. Donc, ce que je propose, pour aller très vite, c'est un petit abécédaire, alors sans respect de l'ordre alphabétique, hein, abécédaire pour un rôle politique des bibliothèques et des bibliothécaires. D'abord, il me semble qu'il faut qu'on arrive à dépasser le décalage, l'écart qui existe entre la théorie, l'égalité formelle, l'égalité que l'on a dans les textes, dans les manifestes, et ce qu'on met en pratique. Essayer de faire coïncider ce que l'on dit avec ce que l'on fait. Nous sommes des bibliothécaires, donc nous aimons beaucoup parler. Et souvent, nous n'avons plus le temps d'agir à force de parler. Donc, il me semble qu'il y a une première piste d'action qui est de travailler sur minimiser l'écart entre le dire et le faire. Ensuite, les textes que je vous ai présentés présentent une limite essentielle, qui est que ce sont des manifestes créés par des bibliothécaires, pour des bibliothécaires, et que chacun peut le reconnaître ou ne pas le reconnaître à sa façon. Et l'inscrire dans un texte, dans une loi, il n'y a pas de loi actuellement pour les bibliothèques, l'inscrire dans une loi, dans un texte réglementaire, qui de façon précise inscrirait ce rôle pour les bibliothèques, permettrait justement d'aborder davantage sereinement la question. Alors c'est des questions que je soumets à débat, hein, je soumets à discussion, c'est justement, c'était pour créer un débat. Il me semble également, donc, comme je vous l'ai dit, que la notion de neutralité doit être... je sais que les bibliothécaires sont attachés au prisme scientifique. Nous avons des classifications qui ont été mises en place au XIXe siècle, dans un siècle du positivisme, et depuis, nous sommes attachés à cette scientificité qui constitue notre légitimité. Je pense que l'on peut arriver à dépasser cette scientificité pour justement agir et s'engager davantage pour des publics, pour mettre en œuvre les missions qui sont les nôtres. Donc ce que je propose à travers le rôle politique des bibliothèques, c'est de ce qui se passe actuellement aux États-Unis, et notamment à travers un courant critique et radical qui est CritLib. C'est un courant de bibliothécaires américains, anglo-saxons, qui travaillent à davantage de justice sociale. Et notamment, parmi les personnes qui travaillent donc, pour CritLib, donc c'est, on peut aller sur Twitter, hashtag CritLib, C-R-I-T-L-I-B. Donc, je vous invite à aller voir. Donc, des débats sont organisés donc, par Twitter autour de thématiques telles que les migrants, des thématiques telles que le genre, qui, je pense, si vous êtes ici, peuvent vous intéresser. Et notamment, une des chefs de file de cet mouvement CritLib, c'est la directrice de la bibliothèque de Massachusetts Institute of Technology, autrement dit le MIT, et qui, dans un texte avec Beth Sadler de Stanford University Library, remet en question la neutralité des bibliothèques. Et elles ont cette formulation que j'ai traduite ici en français. Les bibliothèques, donc ont toujours reflété les inégalités, les préjugés, l'ethnocentrisme ainsi que les déséquilibres de pouvoir à travers les politiques documentaires et les pratiques de recrutement dans une institution donnée. Donc, deuxième versant, et ensuite j'ai terminé, promis. Deuxième versant de cette approche très éclairante, passionnante américaine, c'est le mouvement engagé que les bibliothécaires américains ont mis en place suite à l'élection de Donald Trump. Et ces vignettes qui ont été traduites dans toutes les langues, qui représentent toutes les catégories de public auxquelles les bibliothèques doivent répondre, en tout cas doivent accueillir. Donc on voit des enfants, on voit des personnes de toutes variées, avec le handicap, etc. Et libraries are for everyone, pardon. Donc les bibliothèques sont pour tous. Et je crois que cet exemple américain, pour moi, doit nous donner, comment dire, une idée de comment travailler différemment, comment nous positionner nous en tant que bibliothécaires différemment. Comment agir de notre côté, changer la focale, c'est-à-dire se dire que nous pouvons être engagés et agir en faveur d'une meilleure appropriation, appréhension de l'interculturalité. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Florence. Nous avons tous faim, donc on va être très efficace sur les questions. Ce que je voulais vous signaler, c'est que Antoine Chaudet sera sur le forum cet après-midi. Donc je propose que ceux qui ont des questions plus précises sur l'encyclopédie des migrants puissent les lui poser à cette occasion. Et ça me donne l'occasion également de vous signaler que l'encyclopédie est consultable dans la médiathèque, au premier étage, dans l'espace patrimoine des Capucins ici. Et donc, je vous invite aussi à aller la voir. Et puis, si certains d'entre vous ont une ou deux questions à poser à Florence, c'est le moment.
Bonjour. Merci pour votre intervention. Je trouvais ça hyper intéressant, votre organigramme de problématiques et de tensions. Moi, j'ai aussi fait mon mémoire sur l'accueil des publics non francophones dans les bibliothèques, en essayant de me placer vraiment du point de vue des professionnels et justement des tensions que ça pouvait créer, parce que l'engagement, effectivement, va pas du tout de soi. Voilà. Et du coup, je voulais savoir si, en tant que directrice de bibliothèque, si vous aviez mis en place certaines choses dans votre bibliothèque, et voilà, si vous aviez du coup fait face à ces tensions dans l'équipe, et si vous aviez des pistes de solutions plus concrètes sur ce sujet-là.
Alors, merci pour votre question. En tant que responsable de bibliothèque et responsable d'une bibliothèque qui est... Nous sommes sur la ville, c'est-à-dire nous sommes à proximité du tram, et nous avons fréquemment des personnes que mes collègues appellent les Roms qui viennent donc utiliser les toilettes et qui viennent... brancher leur portable pour recharger leur portable. Donc, ce qui s'est passé, c'est que cette situation génère un conflit, des tensions dans l'équipe, puisque ce qui était fait par ma prédécesseuse de ces personnes à la bibliothèque. Sauf que, et donc ça avait été pris. Pris en charge par mes collègues de la bibliothèque, donc par l'équipe, qui avait l'habitude de dire il faut qu'ils s'en aillent. Sauf que quand je suis arrivée, donc je suis responsable des services au public, je sais que donc dans le règlement intérieur, il était marqué que les bibliothèques sont accessibles à tous, et que il me semble difficile dans ce cadre de limiter l'accès à ces personnes, sous prétexte que je ne sais quoi. Donc actuellement, avec les équipes, pour faire en sorte qu'ils appréhendent différemment la situation et leur faire reconnaître ce qu'est le règlement, que les bibliothèques sont accessibles à tous. Et nous avons travaillé actuellement sur un nouveau règlement et j'ai beaucoup lutté pour faire en sorte que le mot, la phrase « les bibliothèques sont accessibles à tous » soit à l'intérieur du règlement. Donc, les résistances que l'on a sont des résistances quotidiennes, courantes, c'est très commun. Et c'est chacun réagit finalement à sa façon. C'est là un des problèmes. Si je m'en vais de cette bibliothèque, je prends un nouveau poste, le ou la responsable qui prendra mon poste n'aura pas du tout peut-être la même vision. C'est pourquoi un encadrement avec une politique claire, précise, qui détermine, qui précise vraiment le rôle des bibliothèques serait vraiment utile.
Oui. Je dis que c'est assez choquant, enfin, parce que ça relève de la loi quand même. Le défenseur des droits pourrait être saisi par ces personnes qui n'ont plus accès à la bibliothèque au motif qu'elles sont discriminées en raison de leur origine. Et voilà, loi d'un règlement intérieur pour faire valoir ce droit-là. Je trouve que c'est une façon. Je comprends bien l'intérêt pédagogique de travailler sur le règlement intérieur, mais à un moment, c'est un service public.
C'est assez compliqué, c'est-à-dire que quand on est avec une équipe qui a eu l'habitude de fonctionner d'une façon, on est obligé de trouver tous les arguments possibles, inimaginables, pour arriver à les convaincre d'une façon ou d'une autre que la bibliothèque est accessible à tous.
Une autre question ? Une dernière, on va dire. Parce que j'entends gargouiller les...
C'est plutôt des remerciements. Moi, je voulais vous remercier pour votre discours. Dans ma tête, c'est très frais, très novateur et très libérateur. Et j'espère qu'on aura encore plus de gens et encore plus de discours comme le vôtre pour faire changer l'image des bibliothèques déjà. Et qui, selon moi, reste une image très, très conservatrice. Donc voilà, c'était des remerciements. Merci infiniment pour ce discours.
Merci beaucoup à vous.
Je trouve que c'est une belle conclusion pour cette matinée.